Nous avons la chance d'accueillir Grégory Solari, qui va, au cœur de cette semaine d'anthropologie religieuse comparée, va tout de même parler de l'acte de foi dans le christianisme, parce que il faudrait quand même qu'on en parle un peu, mais va en parler d'une manière qui pour vous va être originale, décalée, nouvelle, puisque c'est à partir de la pensée d'un très grand théologien de la fin du 19e siècle, John Henry Newman, qui avait été béatifié par Benoît XVI en 2010. John Henry Newman qui est qui a une philosophie, enfin une théologie extrêmement originale, que d'ailleurs les thomistes ont du mal à intégrer. Donc c'est un complément très fort par rapport à ce que vous avez pu entendre de ma part ou de la part du père de la Soujolle. Et puis j'ai spécialement demandé, un peu en lien avec aussi le travail qu'on avait fait sur Tolkien, parce qu'il y a un lien entre Tolkien et John Henry Newman, de faire quelque chose sur la place de l'imagination dans l'acte de foi. Chose un peu étrange, on croit qu'il faut aller simplement dans le réalisme, que l'imagination nous détournerait, dévierait des choses les plus réelles. Ben voilà, donc ça c'est une grande question et Newman est un défenseur de ça. Alors Grégory, il est connu presque mondialement comme directeur des éditions Ad Solem. Et c'est déjà extraordinaire de l'accueillir et de lui rendre hommage à ce titre-là, parce que c'est un des grands éditeurs catholiques. Et un vrai éditeur qui lit ce qu'il reçoit, qui fait des traductions nouvelles, et puis surtout qui prend des risques énormes. C'est aussi un des rares éditeurs catholiques qui publie de la poésie et qui a eu le courage de faire connaître des nouveaux vrais poètes, parce que dans le monde catho, il y a beaucoup de gens qui se piquent de faire des vers, mais il faudrait mieux se taire. Alors, cela dit, il est aussi un connaisseur de Newman. Non seulement il est celui qui a publié toute l'œuvre de Newman, enfin quasiment toute l'œuvre de Newman en français, aux éditions Ad Solem, mais ça fait 25 ans qu'il lit Newman, et il a déjà écrit un livre sur le temps chez Newman et Bergson, donc ça vous rappelle des choses, puisque cette année vous avez étudié Bergson. Et puis, il prépare là une thèse sur le cardinal Newman. Voilà. La dernière chose que je pourrais dire, en espérant ne pas être impudique, outre le fait que tu es marié, que tu as des enfants, etc., c'est que Grégory est suisse. Plutôt de Genève, en fait.
Plutôt de Genève.
Plutôt de Genève, ouais. Et pire.
Exactement.
Qu'il a des origines juives, mais qu'il était protestant. Je veux bien qu'il était protestant. Donc la question de l'acte de foi aussi, il réfléchit aussi par rapport à sa propre existence. Et donc ça, c'est aussi une chose très, très intéressante. Voilà.
Merci Fabrice.
Merci.
Bien, bonjour à tous. Très heureux de pouvoir vous parler de Newman ce matin. On va commencer par une chose pratique. Je vais vous distribuer deux liasses de citations de Newman que nous allons lire ensemble au fur et à mesure du cours. Donc, il y a 9 pages pour chacun d'entre vous. Malheureusement, elles ne sont pas agrafées, donc vous les trouverez facilement. Elles sont dans l'ordre. Faites-les circuler rapidement, qu'on puisse recommencer. Alors, il est 9h15, il est tôt, les esprits sont froids. Je vais commencer par vous donner des indications biographiques sur Newman. Mais avant, et vous faites un peu silence, ce sera un peu en guise de prière ou d'ouverture. On ne va pas prendre la parole sur Newman, on va l'écouter, on va le laisser parler. Et ensuite, on va laisser descendre ce qu'il nous dit dans ce que je vais vous lire là maintenant. Et on le reprendra à la fin du cours, j'espère qu'à la fin du cours, ce que je vais lire maintenant, le sens aura apparu un peu plus clairement. Est-ce que vous m'entendez bien ? Bon. Je lis. Pour ceux qui ont déjà les photocopies, c'est la dernière page. Mais sinon, vous écoutez.
Vous pouvez arrêter de discuter de commencement, parce que ça, on entend et après, on continuera.
Quand je fus âgé de 15 ans, à l'automne 1816, un grand changement de pensée eut lieu en moi. Je tombais sous les influences d'un credo défini et reçus les impressions produites par le dogme sur mon esprit, lesquelles, par la miséricorde de Dieu, n'ont jamais été effacées ni obscurcies. Cette conversion intérieure dont j'étais conscient et dont je suis plus certain que d'avoir des mains et des pieds, eut quelque influence sur mes opinions, dans le sens de ces imaginations d'enfance que j'ai déjà évoquées, à savoir que cette croyance eut pour effet de m'isoler des objets qui m'encerclaient, de me conforter dans mon doute quant à la réalité des phénomènes matériels, et de me faire reposer dans la pensée des deux et deux seuls êtres absolus dont l'existence s'éclaire et s'atteste mutuellement, moi-même et mon Créateur. Newman écrit ces lignes en 1845. Cette expérience, il l'a connue, expérience ou déduction à suite de lecture, la chose est discutée parmi les Newmaniens, en 1816. Donc après 40 ans qui se sont écoulés entre les deux. Entre les deux, Newman a déplié d'une certaine manière dans sa vie, dans son parcours de vie, qui va le conduire de l'anglicanisme au catholicisme, ce qui était contenu dans ce qu'il nous dit dans cette page de son autobiographie, l'Apologia pro vita sua. C'est-à-dire que sa vie est inséparable de sa pensée, ou plus exactement, sa vie est d'une certaine manière l'explicitation de ce qu'il a vécu, de ce qu'il a expérimenté, et que plutôt que de le dire d'une manière théorique, en donnant des arguments à sa conversion, des arguments rationnels qui ont conduit à son acte de foi catholique, parce qu'il avait déjà la foi évidemment en tant qu'anglican, dans l'Apologia, qui est donc le récit de sa vie à partir de la première moitié de sa vie dans l'anglicanisme jusqu'à sa conversion, Newman va nous montrer sa vie. Newman nous montre sa vie pour donner un exemple, pour donner une image, pour provoquer une impression sur son lecteur, lecteur anglican pour la plupart, donc hostile au catholicisme. Quand vous êtes anglican au XIXe siècle, vous êtes un paria en Angleterre. Les choses ont changé, mais à l'époque c'était comme ça. Et on a dû vous dire que la mère de Tolkien en a fait l'expérience puisqu'elle en est quasiment morte. Pour provoquer donc une image, une impression sur le lecteur, pour que ce que les arguments rationnels ne peuvent pas faire, l'impact de la vie de Newman sur l'imagination de son lecteur puisse le faire, à savoir puisse ouvrir la raison à ce que la raison ne peut pas connaître ou ne veut pas connaître par elle-même. Bien. Alors, quelques éléments biographiques pour poser l'homme dans le temps. Composition de lieu, nous diraient les jésuites. Naissance en 1801 à Londres, dans une famille de banquiers. Première conversion en 1816, puis entrée ensuite à l'université d'Oxford. Il a fait une carrière universitaire brillante. De 1833 à 1845, il dirige le mouvement d'Oxford, qui est un mouvement de renaissance catholicisant à l'intérieur de l'église anglicane, dont il est malgré lui le leader. Il entre dans l'église en 1845. 20 ans après, il est sommé de donner les raisons de sa conversion parce qu'on remet en cause ou en question l'authenticité, la véracité de sa démarche. Ce sera donc le livre dont je vous ai parlé, l'Apologia, 1865. Il est fait cardinal par Léon XIII en 1879, 79, et il meurt en 1890. À sa mort, 20 000 personnes saluent sa dépouille le long des rues de Birmingham, et il y a parmi les gens qui accompagnent son corps autant de catholiques que d'anglicans. Le Time, qui est l'expression qui était, qui n'est plus maintenant, mais qui était à l'époque l'expression de la, de l'establishment, aussi bien religieux que politique dans l'Angleterre, la chose était indissociable. Le Time lui confère la une le 12 août 1890, Newman est mort le jour précédent, avec ce titre « The great man is dead », le grand homme est mort. Et ce grand homme a été déclaré vénérable par Jean-Paul II en 2001, béatifié personnellement par Benoît XVI, qui a fait le déplacement en Angleterre pour le faire, contrevenant à la règle que lui-même avait posée, c'est-à-dire de renvoyer au diocèse les béatifications. Benoît XVI est allé à Birmingham, lui-même béatifié Newman, le 19 septembre 2010. Et je peux vous dire que pour y avoir été présent, Benoît XVI était rayonnant. On avait un peu l'impression de voir nous les Newmaniens, Newman vivant parmi nous, revenant s'auto-béatifier, parce qu'il y a une espèce de parallèle entre le parcours de Benoît XVI et de Newman. Bien. Formation de Newman, et c'est important pour le sujet qui va nous occuper aujourd'hui. Être étudiant à Oxford au début du 19e siècle, c'est une signification précise. Ça veut dire que on va recouvrer ce qui est le génie philosophique d'Oxford, à savoir son aristotélisme, mais pas n'importe lequel. Le 18e siècle a été un siècle où aussi bien la qualité de l'enseignement donné à Oxford que les lectures, parce que vous savez qu'en Angleterre, contrairement à nous, en France et en Suisse, ce qui prédomine, ce ne sont pas les cours magistraux, mais ce sont les lectures, donc les lectures de textes, qui sont agrémentées de mise au point par les professeurs, raison pour laquelle les cours s'appellent des lectures, des lectures. Et donc on donne aux étudiants une liste de livres à lire pour une année, si le tuteur fait bien son travail. Dans le pire des cas, l'étudiant, c'était le cas de Newman, avait dû se débrouiller tout seul, et donc constituer sa propre bibliothèque pour être en mesure de passer les examens. Quoi qu'il en soit, l'auteur qui revient dans la liste des livres à lire au début du 19e siècle, et qui participe de la réforme de l'enseignement d'Oxford et du retour à sa vocation originaire, c'est Aristote, mais un Aristote particulier. C'est non pas l'Aristote de la physique, ni de la métaphysique, ni de l'organon, quoique, mais c'est avant tout l'Aristote de la poétique, l'Aristote de la rhétorique, et l'Aristote de l'éthique à Nicomaque. Deuxième arrière-fond philosophique de Newman, et là, il n'y a rien eu à faire à Oxford sinon à respirer l'air ou l'ambiance philosophique de l'époque, c'est l'empirisme. L'empirisme, c'est deux auteurs majeurs, un qui est d'Oxford et un autre qui est un Écossais, à savoir John Locke et David Hume. John Locke et David Hume, qui sont les mentors de Newman, quand bien même ils se distinguent d'eux, les critiques, néanmoins ils ne se séparent jamais de la stratégie, surtout de celle de Hume, stratégie descriptive, et pour renverser les arguments de Hume en sa défaveur. J'en parlerai très peu, sinon pour évoquer la question de l'imagination chez Hume, qui doit être comprise pour qu'on puisse bien comprendre ce qu'est l'imagination chez Newman, j'y viendrai en deuxième partie. Alors Newman est également poète, il n'est pas seulement, on l'a dit, théologien et philosophe, il est poète, il est l'auteur de deux recueils de poésie, dont l'un le plus connu est le Songe de Gerontius, qui va être mis en musique par un compositeur anglais en 1900, Elgar, et qui depuis lors n'a jamais cessé d'être mis en musique. Il est également romancier, auteur de deux romans, qui sont des romans qu'on peut se dispenser de la lecture. Ils sont intéressants pour la pensée de Newman en termes d'intrigue, c'est pas tout à fait ça. Et surtout, c'est jamais souligné, mais ça ne m'étonne pas, parce qu'il faut l'aide pour se rendre compte du travail que ça peut représenter, Newman était également éditeur. C'est-à-dire que le mouvement d'Oxford, dont je vous ai parlé, qui a voulu contribuer à ce renouveau catholicisant de l'Église d'Angleterre, a passé par la publication de tracts, de traités théologiques, philosophiques, mais également avec des considérations poétiques, des traductions de textes de pères de l'Église. Et en tout, il y a eu 90 tracts. Donc 90 tracts sur une période de 10 ans. C'est-à-dire 9 tracts par année. Ça veut dire quasiment un tract par mois. Or, qui éditait, corrigeait, réécrivait si nécessaire, puis ensuite faisait en sorte que les tracts se vendent, et c'est-à-dire faisait de la publicité pour cela, c'était Newman. Alors il y avait un petit comité éditorial, mais enfin c'était lui qui était l'éditeur, au sens propre du terme, au sens anglais, éditeur. C'est un travail considérable. Quand en plus vous avez sur vous la tâche de curé de paroisse qu'il était, de tuteur d'université qu'il était, d'écrivain c'est considérable. Bien. Donc voilà pour le personnage campé. Ce personnage qui vit 45 ans dans le wiccanisme, de 1801 à 1845, et va passer ensuite la deuxième partie de sa vie dans le catholicisme. Incompris dans la première partie de sa vie dans l'anglicanisme, parce que comme Chesterton a pu le dire, plus il essayait d'être anglican, plus il devenait catholique. La raison est très simple, c'est que, et ça j'ai oublié de vous le dire, outre les auteurs qu'il lisait et les horizons philosophiques qui étaient les siens, Newman était un patristicien, c'est-à-dire c'est un spécialiste des pères de l'Église, et on pense aujourd'hui qu'il était l'un des plus grands spécialistes des pères au XIXe siècle, et le seul qui peut peut-être le rivaliser était un théologien allemand, dont vous avez peut-être entendu parler, Johann Adam Müller, à Tübingen. Mais je vous le signale simplement. Donc, Newman lit les pères intégralement de 1828 à 1833 dans l'ordre chronologique et dans le texte, à savoir en grec, en latin et en syriaque, et intégralement. Et puis ensuite, il les traduit. Alors, pas, il n'est pas seul, mais enfin, il constitue une bibliothèque, une bibliothèque de textes des pères. Et donc, l'Angleterre est disposée, bien avant la France, d'une collection de textes des pères de l'Église qui est disponible quasiment intégralement en 1850. C'est « The Library of the Fathers ». Bien. Simplement, qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi est-ce que Newman, essayant d'être anglican, devenait de plus en plus catholique? Parce qu'en fait, ce qu'il a subjugué en travaillant les pères de l'Église, eh bien, c'est l'image de l'Église primitive. Pour lui, l'image de l'Église primitive, est l'image de l'Église idéale. C'est l'image de l'Église du Christ qui subsiste, nous dit le Concile aujourd'hui, dans l'Église catholique. Et en fait, Newman, dans cette expérience de 1816, dont je vous ai lu la relation, fait non seulement l'expérience d'une espèce de face-à-face qui pourrait faire l'économie de la médiation ecclésiale, mais en fait, on va s'en rendre compte, on en parlera peut-être plus tard, qu'en fait, il y a déjà contenu dans ce face-à-face une ecclésiologie latente. En ce sens où c'est l'expérience de la conscience, et que la conscience est impensable sans la formation que lui apporte l'éclairage, que lui apporte l'Église. On y reviendra en discussion, plus que dans le sujet d'aujourd'hui. Mais retenez déjà une chose importante dans son parcours, qui est capitale, c'est l'impact qu'a eu l'image qu'il a retirée, l'impression qu'il a retirée de l'Église primitive. Et donc il a cherché ensuite, dans ses lectures et dans sa propre Église, à conformer son Église à cet idéal. Conformer son Église à cette image qui lui était apparue. Et il n'y est pas arrivé, parce que plus il essayait d'être anglican, comme je vous l'ai dit, plus il devenait catholique. Bien, au bout du compte, il a tiré les conclusions de cet échec, et s'est rendu compte que l'Église survivait. Cette image de l'Église primitive survivait dans l'Église catholique, mais que pour rester la même, cette Église avait dû changer. Donc l'identité, pour lui, n'est pas un bloc monolithique, c'est un bloc qui change, qui s'adapte, mais qui conserve une unité. Unité fondamentale, unité d'image, unité de structure, unité d'essence. Bien, c'est ce qu'on appelle le développement. On n'en parlera pas beaucoup aujourd'hui. Donc, l'imagination, mais donc aussi l'expérience. Car il a fait l'expérience, d'une certaine manière, par l'impression que cette image de l'Église a faite sur lui. Il a fait une expérience de l'Église, de l'essence de l'Église, d'une certaine manière. Bien, ça, c'est la caractéristique de la pensée de Newman, l'importance conférée au rôle de l'image, au rôle de l'imagination, dans la démarche de la raison, et plus encore, dans la démarche de foi, dans l'accès à la certitude, et puis dans l'acte de foi, qui est une caractéristique de certitude absolue, par l'éclairage de la grâce. Ça, c'est la première chose, expérience. Deuxième caractéristique de la pensée de Newman, c'est ce que j'appellerais le caractère de polarité de sa pensée. La polarité, qu'est-ce que c'est? C'est tenir ensemble de manière non dialectique, c'est-à-dire ne s'opposant pas l'un l'autre comme deux éléments séparés, des éléments qui en apparence ont l'air d'être séparés. Alors, en l'occurrence, c'est ce qui va nous occuper aujourd'hui. La polarité la plus importante, la plus fondamentale pour lui, est celle du jeu entre l'intellect et l'imagination. Quel sens faut-il accorder au mot expérience? Est-ce que c'est ça peut être une expérience intérieure ou une expérience extérieure? Est-ce que c'est on va y venir un peu plus tard pour la définir plus précisément. La polarité, je vous l'ai dit. L'imagination agit sur l'intellect. Elle induit deux modes de pensée. pour Newman, qui est comme un redoublement de la première polarité dont je vous ai parlé, imagination-intellect. Maintenant, on garde à l'esprit seulement intellect, et Newman va dédoubler l'intellect, le fonctionnement de l'intellect, en deux modalités. Ce qu'il appelle raison implicite et raison explicite. Dans La grammaire de l'assentiment, qui est son grand livre de philosophie, en 1870, il change de vocabulaire, mais cela revient au même. Il va parler de deux formes d'assentiment, deux formes de jugement posé, deux formes d'adhésion de l'intelligence à une proposition, à une déclaration, un assentiment de nature notionnelle qui porte sur des notions, sur des énoncés, sur des propositions, et un assentiment réel qui, lui, est déterminé par le rôle que l'imagination y joue. On va y venir. Si vous voulez bien prendre la première page des citations que je vous ai données, vous allez y trouver un encadré dans lequel vous avez la structure de la grammaire de l'assentiment. Ça vous donnera très rapidement une vue d'ensemble de la pensée, de la manière dont Newman conçoit le fonctionnement de la pensée. En fait, c'est tout simplement la table des matières réduite à son squelette le plus élémentaire. Vous avez, donc de gauche à droite, dans l'encadré, les propositions. Hein, les propositions, c'est les fruits du travail de la logique, des énoncés de nature philosophique ou de nature théologique. Bien. Ensuite, vous avez les inférences. Les inférences, c'est ce qui produit, en fait, ces énoncés. Donc, c'est les modalités de raisonnement. Newman distingue trois modalités formelles, donc logique pure, informelle, qui est une espèce d'élément hybride, et une logique naturelle, sur laquelle je ne m'attarderai pas, et ces trois inférences, je ne m'y attarderai pas, on pourra peut-être y revenir, mais je vous les signale simplement. Vient au milieu ce qu'il appelle le sens illatif, c'est-à-dire que le sens illatif, c'est le fonctionnement, c'est l'énergie, c'est la vie même de l'esprit, et c'est cette vie même de l'esprit qui fait passer des probabilités, d'un facteur d'incertitude à la certitude. Bien, mais c'est la vie de l'esprit qui fait passer à la certitude. Ce n'est pas le raisonnement logique. Le raisonnement logique y aide, mais pas au premier chef. Donc, la vie. Puis vient ensuite, et vous remarquerez que ce déploiement du plan de l'apologia est construit sous la forme d'inclusion. Les propositions renvoient aux visions, hein, extrême gauche, extrême droite de l'encadré. Les inférences renvoient à l'assentiment qui se trouve à gauche et à droite du sens illatif. Donc c'est tout ça pour vous signaler que si Newman décompose le fonctionnement de l'esprit, c'est le fonctionnement de l'esprit qui nous est donné ici. Nous pensons à partir tantôt de la raison implicite, tantôt de la raison explicite. Nous pensons sans même y penser. Nous donnons des raisons en pouvant donner des raisons et parfois en ayant des raisons, mais sans pouvoir donner raison de notre raison. Bien. Néanmoins, tout cela est indexé sur l'extrême droite du document, de l'encadré. J'ai indiqué vision, on pourrait mettre image aussi. C'est-à-dire tout ce qui va jouer sur l'assentiment notionnel pour le faire passer au réel, c'est-à-dire tout ce qui est du ressort de l'imagination, tout ce qui va toucher et rendre aussi tangible qu'une intuition, aussi tangible qu'une expérience, aussi tangible qu'un objet qui vient à votre rencontre, ce qui demeure dans le domaine du notionnel, ce qui demeure dans le domaine du théorique. L'obsession de Newman, c'est de faire en sorte que, et c'est la grande question à laquelle il essaie de répondre, et à laquelle toute sa vie a voulu répondre, c'est comment des propositions logiques, des dogmes de foi, peuvent-ils fonctionner sur nous un peu comme des icônes, c'est-à-dire tout d'un coup apparaître à notre regard, au regard de notre esprit, comme les vecteurs de cette image originaire, nous verrons de qu'il parle, qu'il véhicule sous la forme d'énoncés logiques. Bien. Retenez une chose. Les propositions sont indexées, comme l'or ou comme la monnaie est indexée sur l'or, sur les inférences, sur la logique, sur les trois formes de logique. D'accord ? Les propositions sont indexées sur la logique. La logique est indexée sur le fonctionnement de l'esprit, sur la vie de l'esprit, Et ces propositions ne deviennent réelles que si, dans le fonctionnement de l'esprit, place a été laissée, place a été faite à l'imagination. Par ce primat accordé à l'expérience, Newman, je vous l'ai dit, peut être considéré, d'une part, il s'inscrit dans leur sillage, et d'autre part, il est l'un des leurs, l'un de leurs pères, peut être considéré comme un empiriste, donc un disciple de David Hume et de John Locke, c'est-à-dire quelqu'un pour qui toutes les connaissances découlent d'expérience, mais c'est le postulat, c'est la décision philosophique des empiristes. Les empiristes, vous le savez, limitent la région de nos expériences au monde sensible. Au-delà du monde sensible, nous disent les empiristes, il n'y a rien à voir, circuler. C'est pour ça que je vous dis que c'est une décision, que ce n'est pas une description qui tient compte intégralement de toutes les données. Newman, à la différence donc des empiristes, s'il donne un primat à l'expérience, ne limite pas l'expérience aux seules données sensibles, à la seule, entre guillemets, nature, à cette nature humaine que décrit David Hume dans son grand traité de 1739. Pour Newman, il y a un phénomène, une expérience plus fondamentale que celle du monde sensible, et c'est celle qu'il va faire jouer, sur laquelle il va s'appuyer, pour en fait montrer qu'il y a en nous quelque chose qui dépasse le conditionnement du monde empirique, quelque chose qui dépasse notre nature, quelque chose qui dépasse notre simple raison naturelle. Ce phénomène, c'est celui de la conscience. On verra quel mot, quel sens recouvre la conscience chez Newman. Pour faire droit à ce phénomène, cette expérience originaire en nous, en ce sens que c'est une impression, c'est quelque chose dont on fait l'expérience, si on y prête attention. Newman reprend à Hume deux choses, sa méthode descriptive. Il ne va pas définir tout de suite la conscience, il va l'écouter. Qu'est-ce que c'est? Comment ça se passe? Qu'est-ce que je ressens? Et ensuite, il va adopter, et nous verrons comment conscience et imagination fonctionnent ensemble, il va adopter, quand on va passer à l'imagination, on le verra mieux, le renversement épistémologique opéré par Hume, à savoir donner la première place à l'imagination pour faire droit au phénomène de la conscience. Les deux sont intimement liés chez Newman. Donc avant le monde sensible, qui est donc la pierre de touche des empiristes, pour dire qu'il n'y a pas de connaissance au-delà du monde sensible, parce que nous ne sommes pas dotés d'un appareil de connaissance capable de connaître quelque chose d'au-delà de la physique, au sens aristotélicien du terme, métaphysis, Newman part de notre soi, de moi-même, vous avez entendu dans le récit de la première conversion, moi-même et mon créateur. Donc il parle de lui, mais il ne parle pas de lui au sens psychologique, au sens égotistique du terme. Il parle de ce phénomène donc, qu'il trouve en lui, que nous trouvons tous en nous, qui dépasse la nature, c'est donc la conscience. D'une première approche descriptive, Newman dégage deux caractéristiques de la conscience. La première, ce sont des impressions, toute une gamme d'impressions. Je retiens les principales: ombre, lumière, joie, honte, bénédiction, etc., selon ce que l'on a fait de bien ou de mal, le bien ou le mal nous apparaissant si on y prête attention a posteriori, sur le moment où on est pris dedans. Donc produisent une image, d'abord produisent une impression, la conscience produit une impression, et de cette impression, deuxième étape, elle est quasiment simultanée, mais enfin, on décortique quand même les étapes. Ces impressions produisent une image en nous, dans l'imagination ou dans l'esprit. De ces impressions se dégage ensuite une image avec un grand I, qui est d'abord floue et qui va alors tendre à se clarifier avec l'aide d'un élément extérieur qui est celui de l'Église. On y verra. Quoi qu'il en soit, la perception de cette image pour Newman, à partir de la conscience et à partir de l'écoute du phénomène de la conscience et des impressions qu'elle produit en nous, a la même densité et fonctionne de la même manière que l'impression que produit sur nous le monde sensible autour de nous, que nous voyons, que nous touchons, qui nous écrase de sa visibilité. Quand vous avez, dès que vous avez les yeux ouverts, vous ne pouvez que voir. Et vous ne pouvez que voir que le monde sensible. Il faut faire donc comme une espèce de pas en arrière, mettre à distance le monde sensible, cette visibilité écrasante, pour entendre, pour voir en nous quelque chose qui est en nous, mais qui vient de plus loin que nous. Alors si vous voulez bien, on va lire une première citation. C'est la numéro 1, le premier encadré. Je la lis avec vous. Ça va mettre en place le fonctionnement de ce double titre d'impression. De la même façon, je cite Newman, de la même façon que, agissant dans des circonstances particulières, à partir d'une multitude de perceptions instinctives qui échappent à nos sens, nous en venons à la notion générale d'un monde extérieur, puis nous imaginons ce monde inscrit à l'intérieur de et conforme à ces phénomènes particuliers d'où nous sommes partis. Ainsi, à partir de la puissance de perception qui assimile les suggestions de la conscience aux réverbérations ou aux échos, pourrait-on dire, d'une admonestation extérieure, nous en venons à la notion d'un législateur et d'un juge suprême, puis nous l'imaginons, lui et ses attributs, grâce à ses suggestions récurrentes, en dehors desquelles, en tant que phénomène intellectuel, nous étions déjà parvenus à reconnaître son existence. Et si les impressions que ces créatures, donc le monde autour de nous, l'autre que nous rencontrons, etc., et si les impressions que ces créatures exercent sur nous par le biais de nos sens nous obligent à considérer chacune de celles-ci comme sui generis, il n'y a rien d'étonnant à ce que les informations qu'ils nous délivrent, le « il » fait renvoie non pas aux créatures, mais alors à celui qui est derrière l'impression de la conscience, il n'y a rien d'étonnant à ce que les informations qu'il nous délivre indirectement à travers de notre conscience, au sujet de sa propre nature, sont telles qu'elles nous font comprendre qu'il est semblable à lui-même et rien d'autre. Alors dans cette dernière phrase, ce que Newman veut nous dire, c'est que, à la différence des impressions du monde sensible, si le monde sensible nous dit quelque chose de son, j'allais dire, et c'est pas parce que je suis scotiste, mais parce que j'emploie un mot scotiste, son incité, La particularité du monde sensible. On ne voit jamais le monde sensible. On voit toujours des choses. On voit toujours des étangs séparés. Ensuite, on va unifier les étangs séparés dans un concept qui va s'appeler le monde. Bien. Donc, il y a deux étapes. Il y a l'impression que les étangs font sur nous. Ensuite, une image synthétique produite par notre entendement. Bien. Chez Newman, c'est à peu près la même chose. C'est-à-dire qu'il y a l'image de la conscience, produite par la conscience. C'est à ces différences près que l'image produite par la conscience dénote derrière elle, à travers elle, dans ses impressions, un critère spécifique que le monde, lui, ne nous donne pas. C'est non pas l'incité, c'est non pas l'essence, c'est la personnalité. Dans le phénomène de la conscience, c'est quelqu'un qui se manifeste, qui a un ton particulier, j'allais dire une voix particulière. Les ombres et les lumières, le jugement ou la bénédiction, qui sont les affects spécifiques, les propriétés de la conscience. Ça, Newman ne les invente pas, vous les trouvez à peu près partout dans la littérature morale. Mais enfin, lui, au moins, les écoute d'une manière presque phénoménologique avant la lettre et avant l'école. Dénote une personnalité. C'est quelqu'un qui me parle. C'est pas le dieu des déistes, c'est quelqu'un. C'est ça que veut dire Newman dans ses impressions. La conscience fait impression sur nous comme l'autre fait impression sur nous. Je pourrais vous renvoyer à Levinas, hein, d'une certaine manière. Un regard, un visage, ce n'est pas un tronc d'arbre. Ça ne fait pas le même effet. Bien. C'est à peu près ça que nous dit Newman. Donc, grande question maintenant par rapport au monde, à la connaissance religieuse. Parce que si on peut établir une analogie entre l'impact du monde sensible et l'impact de la conscience, la question qui se pose, c'est que si la conscience produit une image et que si au bout du compte cette image se dévoile progressivement comme être elle, comme étant celle de Dieu, celle du Créateur. La question qui se pose, c'est que comment l'invisible Comment l'invisible peut-il se rendre visible? Comment l'inatteignable peut-il se rendre tangible? Bref, comment peut-on voir ce que l'on ne peut faire que croire? C'est à peu près la question de Newman. Alors, la question est posée, c'est la question fondamentale. Comment puis-je voir ce que je crois? La réponse de Newman va se déployer en plusieurs étapes. Je vais en retenir deux. Celle que l'on trouve dans un sermon universitaire, le 13e sermon universitaire sur la raison implicite et la raison explicite, et puis la grammaire de l'assentiment. Je vais simplement les mentionner. Alors, je vous ai dit que la raison implicite dégage donc deux modes de raisonner. Non, pas deux raisons. Il n'y a pas deux raisons, il n'y a pas deux choses, il n'y a pas une raison là et une raison à côté. C'est deux modes de raisonner, bien, que Newman distingue. Vous lisez avec moi, c'est la citation numéro 2. Voici comment Newman les distingue. Ainsi donc interviennent deux processus distincts l'un de l'autre, le processus originel de raisonnement, puis le processus d'examen des raisonnements. En d'autres termes, tous les hommes ont une raison, mais tous les hommes ne sont pas capables de donner une raison. Nous appellerions alors ces deux exercices de l'esprit le raisonnement et l'argumentation, ou le raisonnement conscient et le raisonnement non conscient, ou la raison implicite et la raison explicite. À ce dernier, donc au raisonnement explicite, à ce dernier correspondent les mots, la science, la méthode, le développement, l'analyse, la critique, la preuve, le système, les principes, les règles, les lois et toute chose de même nature. Vous retrouvez ce procédé d'indexation des mots, des propositions, de la logique sur d'abord sur la logique et puis ensuite on va y venir sur une expérience originaire. Voilà comment Newman distingue en nous deux modes de raisonnement. Ce qui veut dire que, vous n'allez pas tout de suite, je finis juste ça, puis je vous poserai votre question. C'est le sous-entendu de Newman, en mettant en lumière une strate plus profonde que celle du raisonnement logique. On ne va pas à la certitude, on ne va pas à la vérité, uniquement par le raisonnement logique et les protocoles de la logique. Newman nous dit quand l'homme pense, quand l'homme s'achemine vers la vérité, il y va avec tout son être. Et penser, d'une certaine manière, dans cette perspective, on peut dire que Newman exploite, mais sans aucun contact, ce que Descartes avait laissé ouvert dans les passions de l'âme, à savoir un mode de pensée qui s'appelle un mode de pensée pathique, et qui fait droit alors aux affects, aux émotions, à l'imagination, dans l'acheminement de l'homme vers la certitude et vers la foi. Donc quand l'homme pense, il ne pense pas seulement selon les protocoles de la raison logicienne, mais il pense naturellement, implicitement, sans même se rendre compte qu'il pense. Bien, ça c'est une chose. Dans la troisième citation, je vais très rapidement, les deux exercices implicites explicites, que ces deux exercices ne dussent pas être confondus pourraient constituer une remarque trop simpliste, si ce n'est qu'ils ont été confondus, nous dit Newman. Mais ils ont été également séparés. Ils ont été séparés. Le processus de raisonnement est en soi complet et indépendant. L'analyse n'en donne que le compte rendu. Elle ne rend pas juste la conclusion. Elle ne rend pas rationnelle l'inférence. Quand Newman critique le cogito ergo sum de Descartes, sa critique va porter sur le ergo, sur la conjonction de coordination « donc », qui porte le poids de la raison logicienne, en nous disant « cogito sum »,« je pense, je suis ». Et ça, c'est la raison implicite. La raison explicite pourra toujours venir après vous dire « Ah oui, en effet, je pense donc je suis. » Mais vous avez, en disant ça, vous êtes déjà en train de penser. Et donc vous prenez une position de retrait par rapport à l'acte de pensée posé. Bien. Donc, que vise Newman en posant cette distinction raison implicite, raison explicite? Il vise la tendance des philosophes rationalistes de son époque, les Anglais, Locke et Hume, qui défendaient une éthique de la croyance. Cette éthique de la croyance, c'est quoi? C'est qu'il faut avoir un nombre suffisant de bonnes raisons de croire pour dire « oui, je crois » ou « oui, je suis certain ». Il n'y a que la raison, et la raison des rationalistes, une raison explicite, nous dirait Newman, une raison logicienne, qui peut faire passer à la certitude. Il faut disposer de suffisamment de raisons pour faire le pas qui sépare la probabilité de la certitude. Que devient la foi dans cette perspective? La foi devient une béquille. La foi devient un complément. La foi devient un adjuvant. La foi, en rigueur de terme, c'est pas ce qui comble la distance ou l'écart posé entre des raisons, un nombre de raisons insuffisant. Et le moment où on dit « oui, je crois », ou même le fait qu'on continue à dire « je crois », la foi, en rigueur de terme, c'est ce qui supporte en nous l'excès de ce qui est donné. La foi, c'est ce qui fait que, en nous, notre entendement s'ouvre à l'infini, à l'impensable et pourtant pensé en nous. Donc la foi, c'est ce qui supporte l'excès de l'intuition. La foi, c'est ce qui, en nous, supporte l'excès de l'expérience. Expérience d'au-delà des limites du monde sensible, au-delà des données du monde sensible. D'accord ? Pour les rationalistes de l'école empiriste, et les rationalistes tout court, Kant ne dit pas la même chose, la foi est une béquille, encore une fois. La foi, c'est une raison malade. Non, pas malade, une raison fragile. La foi, c'est une raison fragile. Donc, c'est une béquille. Elle ne donne rien à connaître. Elle ne remplit rien. Elle ne remplit pas le vide entre le probable et le certain. C'est contre cette mutilation de la nature et de la foi et de la raison que Newman objecte que la raison seule, donc la raison explicite, ne procure pas la certitude. Donc sur le terrain des philosophes empiristes, sur le terrain des rationalistes, on ne pourra jamais, nous dit Newman, rendre compte de la foi. Il faut le concours de la raison implicite. Donc il faut le concours de la vie de l'esprit en nous. Newman revient très souvent avec le terme, de Newman revient très souvent, the living mind, et c'est ça qui l'intéresse, le fonctionnement de l'esprit vivant. Le penser au sens infinitif du verbe, l'acte de penser, dépasse donc la logique. Mais quand je vous dis que Newman met en valeur cette raison implicite ou cet assentiment réel, il ne le fait pas de manière dialectique. Je vous ai dit, la caractéristique de sa pensée est une polarité. Donc il n'oppose pas la raison naturelle à la raison logicielle. Simplement, il dit la raison logicielle n'est pas première, mais elle est utile. Quand il va poser intellect et imagination, il ne va pas opposer l'imagination à l'intellect. Nous verrons comment. Gardez-le bien à l'esprit parce que ça pourrait donner l'impression que Newman est un anti-logicien. Je vous l'ai pas dit, mais je vous le signale quand même. Il est le co-auteur d'un des traités fondamentaux de logique en 1821 et de rhétorique aussi. Donc il sait de quoi il parle. Il sait de quoi il parle. Il connaît les limites de la logique pour avoir travaillé à fond cette question. Oui.
Je voulais juste être sûr, juste là dans le texte 2, c'est marqué raisonnement conscient et le raisonnement non conscient. Le raisonnement conscient correspond à la raison explicite.
Oui, tout à fait. C'est ça, tout à fait. Simplement, il est a posteriori toujours. Donc, pour résumer, penser pour Newman reste un mystère. C'est ce qu'il nous dit dans la quatrième citation que vous avez. La manière dont un homme pense est aussi mystérieuse que la manière dont il se souvient. Dans la grammaire de l'assentiment, Newman reprend cette distinction entre raison implicite et raison explicite. 30 ans plus tard. Et il va alors, à ce moment-là, ce qu'il n'a pas fait dans le sermon universitaire, il va préciser le rôle de l'imagination dans l'accès à la certitude. Là, il procède à une nouvelle distinction, mais c'est quasiment la même. Le vocabulaire change, la chose demeure la même, simplement elle est précisée. Il distingue entre assentiment notionnel, vous l'avez vu dans l'encadré, et assentiment réel. Ce qui est intéressant, c'est que Newman va utiliser deux manières, ou va qualifier de deux manières l'assentiment réel. Il va l'appeler real assent, assentiment réel, et il lui a sorti une deuxième expression, une deuxième définition, qui était celle qu'il avait privilégiée dans les épreuves, excusez-moi, de l'apologie, de la grammaire, et qu'il abandonne, mais qu'il conserve quand même à quelques endroits. Il parle d'imaginative assent, un assentiment imaginatif, ou un assentiment faisant recours à l'imagination, ou un assentiment qui fait droit à l'image, tout ce que vous voulez. Quoi qu'il en soit, ce qui est intéressant, c'est que le rapprochement, la superposition des deux formules est significative. Imaginative assent, real assent, and imaginative assent. Le réel et imaginatif ont donc une corrélation intime. On a beaucoup parlé de l'assentiment réel, et c'est pas en fait quand Newman nous parle du réel, il nous parle pas du réel au sens du réalisme, comme Fabrice Adjaye vous en parlait, et c'est pour ça qu'il y a des malentendus à l'infini entre les thomistes et les newmaniens. Newman ne nous parle pas du réel au sens du réalisme. Pour lui, le réel n'est donné que à travers la médiation de l'imagination. Et elle est d'abord un mode de se rapporter ou de rendre réel une notion. Bien, on pourra peut-être y revenir. Bref, quoi qu'il en soit, les deux termes sont interchangeables. Les deux termes sont interchangeables. Alors, il y a une alchimie, le laboratoire alchimique de la transformation de... La notion en réel, c'est le laboratoire de l'imagination. On verra comment. Alors, pourquoi l'imagination rend réel des notions ? Parce qu'elle procure, écoutez-moi bien, une intuition, mais au second degré. Je m'entends sur le terme intuition. Alors, l'intuition, ce n'est pas une connaissance qui apparaît dans notre esprit sans la médiation des sens. Ce n'est pas le sens d'intuition ici. C'est le sens qu'ancien du terme est reçu depuis Kant de cette manière-là. C'est-à-dire que quelque chose se rend présent, se présente à nous, vient à notre rencontre, fait l'expérience de quelque chose. Donc, c'est ça. Désormais, gardez bien ça à l'esprit, quand je parle d'intuition, c'est de cela dont je parle. Hein ? Donc, pourquoi l'imagination rend-elle réelle des notions ? Parce qu'elle procure une intuition, mais une intuition au deuxième degré. L'assentiment notionnel devient réel parce que ce que visent les propositions acquiert aux yeux de l'esprit, parce que les propositions acquièrent alors aux yeux de l'esprit la propriété de la réalité. D'accord ? T'es perdu ? Pourquoi l'imagination rend-elle les notions réelles ? Parce que l'imagination procure une intuition. Alors vous mettez entre parenthèses expérience, quelque chose se rend présent, etc. Au deuxième degré. Quand je dis que c'est au deuxième degré, c'est parce que c'est pas un objet extérieur qui vient à votre rencontre, que vous rencontrez. C'est je ne peux pas vous expliquer autrement, parce qu'une modélisation, une transformation du regard, les yeux de l'esprit, ne voit plus la chose comme une notion, comme un énoncé, comme une proposition théorique, mais comme quelque chose, comme une chose. Le mot va revenir souvent chez Newman, « like a thing », qui a les propriétés du réel, et qui va agir sur nous comme le réel. C'est-à-dire qu'elle va nous conduire non pas à penser, alors la ratiocination s'arrête, nous dit Newman. Nous allons pouvoir commencer à agir. Ça veut dire que le propre d'une notion transformée à nos yeux en chose, j'allais dire, nous transforme, pousse à nous changer, ouvre des possibles devant nous, ce que nous ne savions pas pouvoir être, peut-être que nous pouvons l'être, la vie que nous ne pouvions pas envisager, nous l'envisageons, et puis donc ça veut dire que ça opère un changement, et si vous suivez le fil de la pensée, une conversion, un retournement possible. Mais pour cela, il faut que la notion, alors le dogme, la doctrine, soit devenue aussi réelle que ce dont elle parle. Seule l'imagination le fait. Voilà pourquoi, grâce à cela, l'intuition, la donnée théorique devient intuition, au deuxième degré. Et donc, nous pouvons agir. Elle nous pousse à agir.
Finalement que bon, nous sommes dans les anges, notre intelligence s'exerce dans une condition sensible, charnelle. Donc pour qu'un énoncé soit quelque chose qu'on ne voit pas, qui n'est pas sensible, nous touche dans le fond de notre intelligence, il faut passer par du sens, mais du sens interne, du sens au second degré, et c'est l'imagination qui fait ça.
Oui,
sinon ça ne pénètre pas dans ce réel de notre être, qui est aussi un réel sensible, corporel, etc. Et donc, si c'est que de la notion abstraite ou intellectuelle, finalement, on ne touche rien. Quoi.
Non. Oui.
C'est d'où la nécessité de l'imagination. Et pour que ça touche l'homme en tant qu'homme, pas comme pur intellect, mais comme intelligence dans une condition charnelle.
On peut, d'ailleurs, j'y viendrai quand on parlera à proprement parler de l'imagination. Vous avez vu qu'on a parlé de raison implicite, de raison explicite, on a parlé d'inférence formelle, informelle, naturelle, etc. On a parlé d'assentiment notionnel et réel. En fait, vous allez voir que l'imagination, là, c'est pas Newman qui parle, c'est moi, mais je suis la pente de sa démonstration. L'imagination, en tant qu'elle est, elle nous sollicite, elle sollicite notre sensibilité et donc notre corporéité, elle dans notre être, elle est comme la strate la plus profonde, la couche impressionnelle de notre personne, de notre être, qui fait que nous allons répondre à ces impressions, non pas seulement de manière théorique, mais alors par tout ce que nous sommes, et nous allons donc agir. Donc, une chose importante à retenir, j'insiste, ce ne sont pas les propositions qui changent de nature, c'est notre regard qui est changé. Et je reprends le vocabulaire de Kant, parce que la comparaison avec Kant est parfois instructive et significative. Je reprends le vocabulaire de Kant ici. Les concepts vides rencontrent une intuition. Les concepts vides, les théories rencontrent une expérience qu'il désignait, qu'il visait, mais qui était comme absente du regard. Donc elle nous pousse à agir. Newman dit deux choses. Citation 5 et 6. Les impressions conduisent à l'action, les raisonnements en éloignent. Impressions lead to action, and that reasonings lead from it. Et ensuite, il nous dit, dans ses assentiments notionnels, aussi bien que dans ses inférences, les jugements, l'esprit contemple ses propres productions au lieu des choses, et dans les assentiments réels, il vise les choses représentées par les impressions laissées par son imagination. Oui, il y a peut-être un paragraphe sur Kant, mais j'y reviendrai plus tard. On continue. Donc, dans cette perspective, je vous l'ai dit, les formules doctrinales ne sont plus des béquilles d'une foi non encore pleinement rationnelle, comme le veut Locke. Elles découvrent l'image, progressivement, qui a présidé à leur formulation. Par le travail de l'entendement, mais qui vient toujours a posteriori, travail de la raison, travail de l'entendement. On pourrait dire qu'elle les trois modes d'expression qui sont ceux de la qui sont ceux qu'emprunte la révélation. En théologie, on parle de la lex orandi, la loi de la prière, on parle de la loi de la croyance, lex credendi. On oublie qu'il y a aussi une troisième loi, il y a la lex agendi, la loi de l'agir. Ces trois modes de transmission de la révélation n'ajoutent rien à elle. Il la visibilise, il la montre. Il montre toujours ce qui est en excès, l'intuition, par rapport à tout ce qu'on peut en dire. Et encore une fois, c'est l'imagination dans les trois cas qui va jouer. Donc, oui.
Excusez-moi, vous pouvez
les trois lex. Les trois, lex orandi, lex credendi, lex agendi. C'est bon ? Loi de la croyance, loi de la prière, pour lex orandi, loi de la prière, et la loi de l'agir, c'est lex agendi ou lex agendi. Donc, pour que la doctrine recouvre aux yeux de notre regard cette fonction épiphanique, il faut le rôle de l'imagination, mais avant tout, il faut écouter la conscience. Conscience qui produit une image via les impressions qu'elle dépose en nous. Et c'est progressivement que cette image devient plus nette. Donc vous voyez que parler de la conscience, je vous réponds après, je vous écoute après, parler de l'imagination requiert, pour être intelligible chez Newman, deux étapes. Il faut parler d'abord des impressions, le lien entre imagination et impression, et il faut passer ensuite au lien entre imagination et conscience. Alors, c'est ce qui va nous occuper. Maintenant, je vais commencer par imagination et impression. J'espère que nous arriverons à arriver à imagination et conscience à la fin de la matinée, pour qu'ensuite on parle plus directement de ce que recouvre l'imagination au fond et son fonctionnement chez Newman. Des questions ?
Est-ce qu'on pourrait dire que ce que Newman est en train de discuter, ça serait les passages de la réalité objective à la réalité subjective de l'élément lui-même ?
Qu'est-ce que vous entendez par vérité subjective et vérité objective ?
Le fait qu'il y a des choses extérieures à nous qui sont vraies, mais qu'on ne devient pas conscient de ça jusqu'à ce qu'on les rentre dans on fait expérience de ça et du coup, par une subjectivité, on expérience de toutes ces vérités objectives.
Oui, on peut dire ça à une réserve près, c'est que cette vérité, entre guillemets, subjectivée, demeure objective. Vous voyez ce que je veux dire ? C'est-à-dire que ce n'est pas ma vérité. Elle devient mienne. Donc je lui donne un assentiment réel, un assentiment qui engage tout mon être. Mais elle reste vérité qui me dépasse et qui est celle à laquelle les autres accèdent aussi. Newman tient ensemble une exigence de personnalisation de la vérité et maintient en même temps son caractère d'objectivité. C'est en cela où il fait droit à une exigence de la réforme, mais qu'il ne la pose pas dialectiquement par rapport à l'enseignement magistériel de l'Église, à un credo qui est normatif pour chacun. Vous comprenez ?
Confirmation,
c'est un peu dangereux, c'est comme une vérification, confirmation, je ne sais pas. Non, c'est plus une... C'est difficile à qualifier. C'est la manière... Newman va vous répondre, je crois. Newman vous dirait... Chaque esprit a un mode personnel de s'acheminer vers la vérité. Et alors, votre manière de vous approprier telle et telle vérité vous est propre. Vous aurez traversé tel chemin, vous aurez été sensible à tel argument ou alors ou insensible et tout ce que vous voulez. Mais il ne parlera pas tellement de vérification, il parlera de personnalisation. Et vous dira que si il n'y a qu'une vérité, il y a des chemins divers pour y accéder. Et que mais il n'y a pas de relation dialectique entre la multiplicité des chemins et l'unité de la vérité. Newman se plaignait beaucoup à son époque de la disparition des écoles de théologie. Il disait le Moyen-Âge bourdonnait de réflexions aussi bien théologiques que philosophiques parce qu'il y avait des écoles multiples qui s'entrechoquaient, non pas au détriment de l'enseignement de l'Église, mais bien au contraire pour l'approfondir. Et il espérait la résurrection d'écoles philosophiques qui tiendraient ensemble cette double exigence d'unité et de multiplicité, non pas dialectique, mais symphonique. Est-ce qu'on s'y achemine aujourd'hui? J'en sais rien. J'en sais rien. Bien. Alors, encore 5 minutes, si vous voulez bien, pour qu'on attaque imagination et impression. Est-ce que ça va jusque-là? Est-ce que les éléments sont à peu près clairs? Bon, alors. Donc, le concept d'impression. Deux définitions. Impression, chez Newman, c'est d'abord une empreinte. Une empreinte laissée dans l'esprit, on the mind, on the imagination. Ensuite, c'est une sensation ou un ressenti produit par une proposition, une parole ou par la rencontre d'une personne. Citation 7, mais je vous lis uniquement ces citations pour que vous voyez la distinction entre différents types d'impressions. J'en ai choisi deux, j'en aurais pu prendre d'autres. On peut comparer cela aux impressions faites sur nous par les sens. Les objets matériels sont une totalité et ils ont une individualité, et les impressions qu'ils font sur l'esprit par le moyen des sens sont d'une nature correspondante. Citation 8. Une expérience commune dans la vie montre bien comment les causes les plus populaires et intéressantes languissent si leur chef vient à manquer, et comment le pouvoir politique revêt souvent l'habit d'un individu simplement en raison de la netteté de l'impression que produit une présence personnelle. Il y a presque une politique de l'imagination dans cette phrase. Donc vous voyez, imagination au sens d'impression faite par le monde sensible sur notre esprit, puis l'impression produite par une personne. Si impression n'est pas polysémique, mais en tout cas, il ne se limite pas seulement à un type d'impression, que cela soit la marque, le sceau, l'empreinte, ou alors, plus psychologique, l'impression. C'est un peu les deux. C'est tantôt l'un, tantôt l'autre. Bien. Donc, à ces deux registres, on va dire ontologique quand c'est le monde qui nous impressionne, et puis pathique quand c'est une personne qui nous impressionne, qui fait une impression sur nous, qui implique la passion, il y a deux autres caractéristiques de la phénoménalité. Des impressions produites par la conscience. Une caractéristique temporelle. Il y a un écart entre le moment de l'impression, son impact, on va dire, et le moment de la prise de conscience. Il y a un écart entre le moment où la raison explicite ce que la raison vit implicitement. D'accord ? En fait, c'est ça. Mais en fait, là, pour l'impression, c'est le même phénomène. Vous ressentez quelque chose, et c'est après que vous analysez ce que vous avez ressenti. Donc, un écart. Ce deuxième moment, c'est celui de l'analyse, c'est celui où la raison opère son travail de discernement. Ce qui était implicite devient explicite. La raison met en forme, puis exprime le donné implicite. Là, j'ai pris un exemple théologique, mais mutatis mutandis, vous allez voir, on le retrouve également dans l'expérience de la vie ordinaire. Newman nous dit, c'est la citation 9. Les dogmes théologiques sont des propositions qui expriment les jugements formés par l'esprit. Ou bien, les impressions qu'il reçoit de la vérité révélée. Donc, qui exprime les impressions qu'il reçoit de la vérité révélée. La révélation place devant lui certains faits surnaturels, ainsi que des actions, des êtres et des principes. Tout cela produit une certaine impression ou image sur l'esprit, et cette impression, spontanément et même nécessairement, devient l'objet sur lequel réfléchit l'esprit lui-même, qu'il analyse et en extrait une série d'énoncés distincts. Donc, impression, analyse. Impression, développement, et formulation doctrinale. C'est ce qu'on trouve dans la citation 10. Ce processus d'analyse, d'explicitation de l'impression originaire, c'est son développement, et il aboutit à une série, ou plutôt à un corpus de déclarations dogmatiques, jusqu'à ce que ce qui était tout d'abord une impression sur l'imagination soit devenu un système ou un credo dans la raison. Alors ça, c'est sur le plan théologique. Bien. Donc Newman nous dit, et est-ce que je voulais Oui. Il vous dit qu'il y a donc deux étapes dans le cadre de la connaissance religieuse. L'étape de l'impression, de l'impact sur l'imagination ou sur l'esprit, et le moment de l'explicitation. Mais cela ne veut pas dire que ce qui demeure inaperçu, entre guillemets inconscient, tantôt n'existe pas, tantôt ne soit pas présent, ne soit pas donné, plus exactement. Donné à l'esprit ou donné au raisonnement implicite. Je reviens comme premier exemple, comme première comparaison sur la raison implicite et la raison explicite. Citation 11. Un paysan peut avoir une véritable impression de ce genre et cependant être incapable d'en rendre compte de manière intelligible. Mais ce qui est remarquable, continue Newman, c'est qu'il y a de bonnes raisons pour dire que l'impression produite sur l'esprit n'a même pas besoin d'être discernée par ceux qui la possèdent. Que des personnes ne soient pas conscientes d'une idée ne prouve pas qu'ils ne la possèdent pas. Rien n'est plus fréquent dans l'ordre du sensible ou de l'intelligible que l'existence de telles impressions inaperçues. L'absence ou bien l'absence partielle ou bien le caractère incomplet d'une déclaration dogmatique ne prouve pas l'absence d'une impression ou d'un jugement implicite dans l'esprit de l'Église. Des siècles peuvent s'écouler sans que soit exprimée formellement une vérité qui était la vie secrète de millions d'âmes fidèles. Alors, on reviendra peut-être là-dessus un peu plus tard. Que nous apprend, quelle première leçon, et je vais m'arrêter ici, quelle première leçon peut-on retirer de la distinction entre raison implicite, raison explicite, raison consciente, raison inconsciente, raison perçue, raison inaperçue, et puis l'analogie avec l'impression non sentie, puis ensuite rendue explicite, comme il vient de nous le dire, aussi bien du point de vue de la révélation, qu'est le phénomène limite, hein, le phénomène quasiment, on va dire, le phénomène absolu, et puis, mais d'autres choses aussi, comme des impressions que nous ne savons pas ressentir et que nous découvrons a posteriori, des pensées que nous n'avons pas à l'esprit et que pourtant nous portons, etc. Donc tout ce qui est de l'ordre de la raison implicite et naturelle, eh bien on peut retirer une leçon que je formule en conclusion de cette première partie. Tout ce qui se montre à nous se donne. Mais tout ce qui se donne ne se montre pas forcément. Tout ce qui se montre se donne. Mais tout ce qui se donne ne se montre pas forcément. Ce qui veut dire que il faut reconsidérer notre concept de vision, il faut reconsidérer notre conception de la perception. Voir, c'est peut-être pas voir quelque chose, mais c'est voir néanmoins. J'y reviendrai quand nous verrons le grand enjeu qui est derrière tout le rôle de l'imagination, de la conscience et de son rapport avec l'acte de foi. Une question et ensuite on fait la pause.
Après, vous avez parlé du concept d'impression avec deux définitions. L'empreinte et la sensation. Donc, à ces deux registres, il y a d'autres caractéristiques. J'ai noté que la temporelle.
C'est... L'autre caractéristique, c'est son caractère d'inaperçu. Le caractère que vous pouvez avoir une impression, mais ne pas être conscient de cette impression.